Je suis femme, reine et dieu.
Au temps de Cléopâtre, vivait un autre mythe.
Faites silence pour Caius Julius César, consul du Sénat du peuple de Rome. Que tous se lèvent.
César et Cléopâtre auront eu la chance de vivre à la même époque. Ils se sont trouvés et ils se sont nourris l'un l'autre pour l'éternité.
Les murs de Paris, et bientôt de toute la France, vont se couvrir d'affiches gigantesques où, en couleur de luxe, s'inscrira un nom, un seul, mais quel nom ? Cléopâtre.
Lorsque César rencontre Cléopâtre à Alexandrie, il a 54 ans, elle en a 21. Deux fauves qui se jaugent, se toisent, puis s'enlacent pour nouer leur destin. Mais prenez garde, ce n'est pas qu'une histoire d'amour, loin s'en faut. C'est avant tout une opportunité réciproque. Devenir l'amant de la reine d'Égypte, c'est une affaire politique pour César. C'est laisser entendre au peuple romain qu'il pourrait lui aussi être un roi. C'est son ambition. Et devenir la maîtresse de César, le consul de Rome, c'est une affaire politique pour Cléopâtre. C'est à la fois protéger sa dynastie et poursuivre le rêve d'Alexandre le Grand. César et Cléopâtre, un couple de pouvoir.
Il semble qu'une fois de plus, Cléopâtre soit déjà loin de moi et qu'il faille que je cours après elle.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Cléopâtre, le génie politique. Deuxième épisode, dans la tête de César.
La guerre !
Laisse-les parler, laisse-les négocier, tant qu'ils veulent. Le temps est de notre côté, on ne peut que devenir plus fort.
Je t'aime, divine Cléopâtre, je t'aime parce que tu es toi.
Ce deuxième épisode débute à Alexandrie. César n'a toujours pas rencontré Cléopâtre. Elle s'est réfugiée en Syrie, car le royaume d'Égypte se déchire entre ses partisans à elle et ceux de son frère, Ptolémée XIII. César, serein, commence par observer la situation. Il a 54 ans, il en a vu d'autres.
Suétone, vie des 12 Césars, deuxième siècle de notre ère. Il avait une haute stature, le teint blanc, les membres bien faits, le visage un peu trop plein, les yeux noirs et vifs, une santé robuste.
Un homme intelligent, un grand politique, un homme très habile, très ambitieux et indifférence totale à la souffrance des autres.
Lorsqu'il arrive à Alexandrie, en 48 avant notre ère, César est consul de Rome et il est aussi impérator. Qu'est-ce que ça signifie ?
L'impérator, c'est le général qui a commandé une armée pendant une guerre et qui a terminé cette guerre victorieusement.
Yann Le Boeck est historien et biographe de César.
Donc, il méritait ce titre parce qu'il avait conquis la Gaule de 58 à 51. Il avait mené une guerre très dure, très cruelle, mais qui lui avait rapporté beaucoup d'argent et qui surtout avait satisfait les Romains. Parce que le Gaulois, il ne faut pas l'oublier, c'était l'ennemi héréditaire. Si vous reprenez l'histoire de Rome, les premiers contacts entre Romains et Gaulois au IVe siècle, ce sont les Gaulois qui sont descendus du nord de l'Europe, de la vallée du Danube, et qui sont venus piller Rome. Et ça, les Romains avaient des raisons de ne pas aimer les Gaulois. Et puis, toutes ces guerres lui ont rapporté beaucoup d'argent. Dans l'Antiquité, à l'issue d'une guerre, les biens du vaincu devenaient la propriété du vainqueur. C'est ce qu'on appelle le butin. Toute guerre se terminait par des pillages et se terminait par un pillage très général.
Auréolé d'une gloire militaire, le prestige et l'autorité de César se sont répandus dans tout le bassin méditerranéen. et sa venue en Égypte n'est pas anodine. Il connaît très bien l'importance de ce royaume oriental.
L'Égypte était une région du monde méditerranéen qui était extraordinaire et qui jouissait d'un très grand prestige. Pour des raisons économiques, d'abord, beaucoup de produits qui venaient de l'Inde, de la Chine, arrivaient par la mer Rouge, par le Nil, et tout cela débouchait à Alexandrie. Et économiquement, Alexandrie était d'abord un port de transit, mais c'était devenu très rapidement aussi un centre de grande production artisanale et d'objets de luxe. Quand un sénateur romain voulait faire plaisir à sa femme ou à sa maîtresse, il lui offrait une robe qui provenait d'Alexandrie. Alexandrie et l'Égypte, c'était une source de richesse. Bien entendu, il faut ajouter aussi le blé de la vallée du Nil, qui était extrêmement abondant, qui permettait des exportations et des richesses. Et puis, il y avait, outre l'aspect économique, un aspect spirituel, culturel, qui n'était pas négligeable. Et l'Égypte jouissait d'un grand prestige auprès des gens de l'Antiquité, parce que c'était un pays que les gens considéraient comme très ancien. Ils savaient que l'Égypte était très ancienne, qu'elle était plus ancienne que Rome, plus ancienne que la Grèce. Et déjà, au temps d'Hérodote, ce géographe et historien célèbre, c'est-à-dire au 5e siècle avant Jésus-Christ, était allé faire le pèlerinage en Égypte pour voir, admirer ce paysage.
Ce royaume légendaire, César, compte bien le placer sous la coupe de Rome. Mais d'abord, il doit gérer la crise qui oppose Cléopâtre à son frère. César sait que l'enjeu est de taille.
Sans le grain égyptien, Rome meurt de faim. Ce serait peu judicieux de ne pas intervenir.
Mais l'entourage de César s'inquiète sur la marche à suivre.
Et comment vas-tu intervenir avec une moitié de légion ?
Je n'ai pas l'intention de me battre. Je vais plutôt arbitrer les différentes factions.
Ce n'est peut-être pas si facile. Ces différentes factions réussissent à s'entendre sur un point commun, leur haine de Rome.
Il a raison. Ptolémée pourrait l'utiliser pour dresser son peuple contre l'ennemi commun.
J'ai réussi à conquérir la Gaule. J'ai réussi à défier Pompée Magnus. Je pense pouvoir dompter un petit garçon et un eunuque.
Un petit garçon avec 100 000 hommes.
Je le sais très bien. Il n'en reste pas moins un enfant.
En effet, Ptolémée XIII a 13 ans. Un jeune souverain mal conseillé. Prudent, César choisit d'abord la voie du dialogue. Il veut réconcilier le jeune pharaon et sa sœur.
Cette dispute entre vous doit prendre fin. Rome désire qu'il y ait la paix en Égypte. Vos bateaux de grain doivent continuer de naviguer.
Ce que veut César, c'est que l'Égypte rentre dans l'alliance romaine.
L'historien Bernard Legras.
Alors, est-ce que César a déjà la volonté d'annexer l'Égypte, d'en faire une province de l'Empire romain ? Certainement pas, parce que toute sa politique, c'est une alliance avec un royaume qui reste indépendant, qui est allié, donc qui est dominé évidemment par une alliance qui est une alliance inégale, mais de maintenir l'indépendance de l'Égypte qui va l'aider à trouver les ressources économiques pour son pouvoir, sans parler évidemment du prestige que ça lui donne à Rome.
Pendant que César amorce une négociation avec Ptolémée XIII, Cléopâtre demeure invisible. Mais consciente qu'elle ne peut pas rester à l'écart des discussions, elle décide de venir à la rencontre de César. Elle doit défendre ses intérêts. Or, c'est un pari extrêmement dangereux. Pour accéder au palais d'Alexandrie, où est logé César, il faut traverser les lignes ennemies, autrement dit, les troupes de son frère. Et Cléopâtre sait pertinemment que si elle se fait attraper, elle sera aussitôt assassinée par son rival. Alors, elle choisit de tenter sa chance de nuit.
Plutarque, vie de César, 1er siècle de notre ère. Cléopâtre partit sur le champ.
et ne prit de tous ses amis que le seul Apollodore de Sicile. Elle se mit dans un petit bateau et arriva de nuit devant le palais d'Alexandrie.
La nuit est profonde. La barque qui a porté Cléopâtre jusqu'à Alexandrie s'est glissée sans encombre jusqu'à la capitale. Un seul des fidèles de Cléopâtre l'accompagne, Apollodore de Sicile. Lui-même accoste à la rame au pied du palais.
Comme elle ne pouvait y entrer sans être reconnue, elle s'enveloppa dans un paquet de couvertures qu'Apollodore lia avec une courroie et qu'il fit entrer chez César par la porte même du palais.
Et dans le palais, on a informé César.
Il semble que quelqu'un m'apporte un présent de la part de la reine Cléopâtre. Apparemment un marchand de tapis. Il semble connaître le palais extrêmement bien. Il est soudainement apparu dans un couloir, sortant d'un passage secret que tout le monde ignorait à part lui. Qu'on me l'amène, Flavius.
Le complice de Cléopâtre entre dans la pièce avec un sac sur l'épaule. Curieux, César s'en empare et cherche à l'ouvrir.
Je trouve que l'on peut mieux juger les qualités d'une marchandise quand on examine le revers d'abord.
Cléopâtre surgit du sac.
Salut, ô Cléopâtre, divine par Horus et Ra, bien-aimée de la lune et du soleil, fille d'Isis, souveraine de la haute et basse Égypte, reine.
Oh.
Cette ruse de Cléopâtre fut, dit-on, le premier appât auquel César fut pris.
Nous avons une scène absolument extraordinaire, donc on ne connaîtra jamais évidemment la vérité. Donc César est dans le palais royal, où se trouve également Ptolémée XIII, mais dans une autre partie. En fait, le palais, c'est une succession de palais. Et donc César est là, de nuit, et Cléopâtre veut pénétrer discrètement, secrètement dans le palais. Alors à la fois, comme vous l'avez très bien dit, pour ne pas se faire tuer par les sbires de son frère, mais également pour accéder à César qu'elle veut rencontrer en personne. Donc il y a plusieurs versions. La version la plus drôle, c'est Cléopâtre qui se cache dans un sac. Alors, c'est sans doute un sac de couchage de marin. Elle est portée sur le dos d'un costaud. Et donc elle arrive jusqu'à César ainsi. Et on vide le sac avec Cléopâtre qui est dedans, ce qui permet de penser que Cléopâtre n'était pas très grande si elle pouvait être portée aussi facilement jusqu'à César. Alors ce qui est important, c'est que cette rencontre tout à fait inopinée a consacré l'idée d'un coup de foudre.
Mon nom est Cléopâtre, ô César. Et je suis venu t'apporter le gage de mon amitié.
Pardonne ma surprise, Cléopâtre, tu peux la comprendre. Sois la bienvenue. On m'avait entretenu de ta beauté, je vois que les récits qui m'avaient été faits n'avaient point amplifié la réalité.
Ce dialogue un peu niais entre Cléopâtre et César est à l'image du mythe. On en a fait une rencontre sulfureuse, un coup de foudre réciproque. Or, c'est avant tout une rencontre politique.
C'est là où Cléopâtre va agir très habilement.
Maurice Sartre est historien.
Elle est une femme politique, elle est une tête politique. Il faut donc qu'elle arrive à César en déjouant tous les pièges possibles et imaginables. Alors, là-dessus, on a plusieurs versions. Rouler dans un tapis, c'est ce qu'a plu à Mankiewicz. Mais pourquoi pas? Mais c'est pas du tout ce que disent les textes anciens. Elle est cachée sous des vieilles toiles à matelas ou des vieux chiffons dans une barque. Et elle arrive devant César. Alors après, on peut inventer le roman qu'on veut, bien entendu. Et personne ne s'en est privé jusqu'à présent.
On peut inventer le roman qu'on veut, néanmoins, se dégage de cette histoire une audace.
Elle a un culot monstre, il faut bien reconnaître, mais en même temps, elle a bien compris que la clé du pouvoir à Alexandrie, c'était César qui l'avait, c'est pas Ptolémée XIII. Et là encore, elle est bonne politique.
Posséder un instinct politique, c'est aussi maîtriser l'art de la séduction. C'est avoir un charme naturel, une assurance et une voix. Cléopâtre n'échappe certainement pas à la règle.
Elle était petite, n'était pas une beauté classique. Avant tout, ce qui retenait, c'était un charme sensuel extraordinaire, qui commençait dès qu'elle parlait. Byron a dit de cette voix qu'elle était du carquois de l'amour le trait le plus sûr.
César, en voyant Cléopâtre, a été subjugué par sa beauté, par son charme et par sa voix. Hein, tous les auteurs anciens insistent sur sa voix, qui était mélodieuse, très agréable à entendre. Et Cléopâtre a passé la nuit avec César, amoureusement, bien entendu. C'est le début de leur histoire d'amour. Et le lendemain, Ptolémée XIII retrouve César et Cléopâtre, qu'il découvre là. Pour lui, c'était une première surprise. Et la deuxième surprise, c'est de voir qu'entre les deux, eh bien, une amitié amoureuse était née. Ptolémée XIII est devenu fou furieux. Il a compris qu'il a perdu.
Alors, au-delà de cette amitié amoureuse, on peut imaginer aussi que Cléopâtre a parlé à l'oreille de César en disant « C'est moi, Cléopâtre, l'autorité légitime. C'est moi, la fille de Ptolémée XII, qui était alliée des Romains. » Je pense que dans cette nuit-là aussi, peut-être qu'elle fait entendre à César que c'est elle, la souveraine.
Ah, il n'y a pas eu dans cette nuit que des mots d'amour. Hein. Il y a aussi eu des mots très politiques. Cléopâtre sait plaider sa cause et elle a une légitimité, y compris aux yeux des Romains. Et entre ce petit garçon assez fadasse, entre les mains de son entourage, et cette femme dont on ne voit jamais les conseillers. Hein. Donc Cléopâtre, elle apparaît dans les textes anciens toujours seule. Donc c'est elle qui détermine sa propre politique. César est un homme à femme, hein. Donc en Cléopâtre, il voit une femme d'exception.
Ma mission ici consiste à mettre fin aux fatigantes disputes entre ton frère et toi.
Tu n'es pas stupide, où le serais-tu?
Je manque peut-être de modestie, mais non.
Tu as vu mon frère, et tu l'as entendu, je suppose. Tu as aussi entendu les mauvais conseillers qui lui dictent ses paroles.
Oui.
César n'a pas perdu de vue son objectif politique, pacifier l'Égypte. Et conscient désormais de sa position de faiblesse, Ptolémée XIII accepte une entrevue avec sa sœur. Et contre toute attente, César obtient une réconciliation de façade.
Après les avoir mis en contact l'un avec l'autre, il fait un grand discours devant les Alexandrins, parce que César a parfaitement compris que la population à Alexandrine était turbulente et qu'elle pourrait intervenir dans ce jeu politique et ces alliances qui sont en train de se nouer. Donc il fait un grand discours de réconciliation en annonçant, c'est lui qui l'annonce, qu'ils vont désormais régner véritablement l'un avec l'autre. Donc c'est la puissance romaine qui tient désormais le pouvoir alexandrin.
Oui, c'est en effet la puissance romaine qui tient le pouvoir à Alexandrie. Car c'est sous la tutelle de Rome que Cléopâtre est revenu dans le jeu. Alors, comment réagit Ptolémée XIII à cette nouvelle situation?
Ptolémée XIII, dans un premier temps, il n'a pas le choix. Hein. Il est bien obligé d'accepter cette puissance romaine parce que César n'est pas venu seul. Il a des soldats.
Il a quelques milliers de soldats avec lui, mais les conseillers, à nouveau, les ministres de Ptolémée XIII vont réussir à nouveau à créer des émeutes dans Alexandrie, jusqu'à lever une armée avec la jeune sœur Arsinoé IV pour chasser Jules César d'Alexandrie. Comment ça se passe à ce moment-là, Bernard Legras?
Les conseillers de Ptolémée XIII qui mettent en avant le nationalisme alexandrin, c'est vraiment la haine du Romain. Le Romain est un envahisseur et qui intervient dans la vie politique du pays. Donc vont inciter Ptolémée XIII, qui est toujours présenté comme quelqu'un de falot et incapable de prendre des décisions par lui-même, vont le pousser à lancer une véritable guerre, alors contre Cléopâtre bien entendu, mais également contre César.
César, un mot, c'est important. Les navires de guerre égyptiens dans le port de l'Ouest ont embarqué des hommes et des armes toute la journée.
Quand seront-ils prêts à nous livrer bataille?
Demain matin, grâce au vent de l'aube.
Et maintenant, depuis des semaines, le combat fait rage dans les rues de la capitale entre les troupes de César et les Égyptiens en rébellion.
Il se trouve que cette armée est plus nombreuse que celle de César, donc César et Cléopâtre sont quasiment assiégés dans Alexandrie. Comment se sort-il de là?
Alors comment ce qu'on appelle la guerre d'Alexandrie, où César est assiégé dans Alexandrie par des forces évidemment beaucoup plus nombreuses. L'armée ptolémaïque est une armée très puissante et très bien entraînée. Donc César va chercher à briser ce siège.
Et il s'en sort. Son génie militaire fait qu'il va réussir à retourner la situation. Il déjoue le piège.
Alors il va déjouer le piège, oui, mais avec difficulté. Hein, car il va commencer par subir une défaite tout à fait humiliante dans Alexandrie même, dans une digue qui relie la ville d'Alexandrie à l'île de Pharos, à l'île où se trouve le phare. Donc il y a une digue qui s'appelle l'Heptastade, et César va chercher à prendre cet Heptastade, et ça va être un échec. C'est assez humiliant pour lui, il est jeté à l'eau, il est obligé de nager pour s'enfuir, il est obligé d'abandonner son manteau rouge pour cela. Donc pour César, c'est un moment où il aurait pu perdre la vie, bien entendu, mais où ses soldats également l'ont vu en grande difficulté. Mais il réussit tout de même à s'enfuir et à sauver sa peau. Hein. Et finalement, la victoire finale de César viendra d'une armée qui viendra de Syrie. Hein, donc César, le général romain, fait appel à des troupes qui se trouvent en Syrie. Alors, dans ces troupes de Syrie, il y a également des contingents alliés. Et donc, cette armée venue de l'extérieur va sauver César.
Et donc, à la fin de cette guerre d'Alexandrie, quel est le destin de Ptolémée XIII?
Alors, le malheureux Ptolémée XIII se noie dans le Nil. C'est la version officielle. On ne sait pas s'il a été noyé ou si c'est noyé. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, disparition de Ptolémée XIII. Donc, Cléopâtre se retrouve, alors là, vraiment, vraiment toute seule.
Que m'apportes-tu, César?
L'armure d'or de ton frère et époux, Ptolémée.
Son armure d'or? Est-ce donc qu'il est ton prisonnier?
Ptolémée est mort, Cléopâtre. Il s'est noyé.
Les dieux soient loués.
Tu loues donc les dieux de la mort de ton frère?
Ptolémée était ton ennemi. Tous tes ennemis doivent périr. Je n'ai pas d'autre loi, César, et point d'autre religion.
Au passage, César va rendre l'île de Chypre à Cléopâtre, et ce n'est pas rien.
Alors la grande habileté de César, en dehors évidemment de ses exploits militaires et de l'alliance qu'il est en train de faire, c'est de rendre effectivement l'île de Chypre au royaume des Ptolémées, ce qui est une manière d'amadouer les Alexandrins.
Après la mort de Ptolémée XIII, le Sénat à Rome se réjouit.
Il est arrivé un messager d'Alexandrie. César a réussi à briser le siège et massacrer les armées de Ptolémée. Il est sain et sauf, et maître de toute l'Égypte.
Dans quel état d'esprit se trouve alors Cléopâtre?
Je pense qu'elle est lucide. Elle sait qu'en acceptant que César la réinstalle en quelque sorte sur le trône qu'elle avait perdu, elle devient d'une certaine manière un roi client de Rome. Donc, ça la place dans une situation de dépendance. Mais comme elle a un objectif qui est de récupérer une partie de son royaume, après tout, pourquoi pas? Elle reste quand même maîtresse des finances, donc c'est important. Elle peut espérer que César va lui rendre un certain nombre de choses. D'ailleurs, très vite, elle récupère de fait probablement Chypre. Donc elle enclenche un processus en étant parfaitement lucide qu'elle n'est pas beaucoup mieux qu'une reine cliente de ces rois que les Romains ont parfois fabriqués eux-mêmes, comme ils vont fabriquer un petit peu plus tard Hérode. Hein. Simplement, elle a pour elle une sorte de légitimité, elle est la descendante légitime de cette dynastie. Et puis, financièrement, elle pèse plus lourd quand même qu'un roi de Judée ou de Cilicie trachée. Et puis surtout, elle règne en même temps, on lui a imposé son deuxième frère, mais qui est encore plus petit que l'autre, donc il est encore plus marginal.
Le véritable pouvoir est désormais entre les mains de Cléopâtre.
Je montrerai à César tous les sanctuaires de mon royaume reconquis.
Il faut quand même souligner, Bernard Legras, que Cléopâtre a alors 21 ans, qu'elle avait quasiment tout contre elle, mais qu'elle a inversé le cours de son destin et le cours de l'histoire, quasiment.
Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est qu'en effet, on a affaire à des adolescents ou vraiment à des très, très, très jeunes gens. Cléopâtre a 21 ans quand elle devient véritablement reine pharaon du pays.
Sous la protection d'un amant qui est donc Jules César.
Voilà.
Qui a 54 ans à cette époque-là, lui.
Ah oui, alors là, il y a une très grosse différence d'âge.
En effet. Ce qu'il faut comprendre, quand on vous écoute, Bernard Legras, c'est qu'à ce moment-là, l'un et l'autre ont besoin de l'un et de l'autre. C'est un duo qui fonctionne très bien, à la fois parce qu'elle peut asseoir son pouvoir sous la protection de César, et que lui va peut-être mettre la main sur toutes les richesses que vous évoquez.
Ah, c'est un partenariat stratégique parfait. Et il y a une dimension diplomatique, il y a une véritable alliance. Alors, évidemment, on a parfois tendance à ne retenir que l'idylle amoureuse, le côté érotique de l'affaire. Mais fondamentalement, on a deux hommes d'État parfaitement conscients de leurs intérêts et de leurs intérêts réciproques.
Cléopâtre est donc de retour sur le trône d'Égypte. Et comme l'exige la tradition de sa dynastie, elle est associée à son très jeune frère, Ptolémée XIV. Il a 10 ans, donc elle règne seule. César, lui, enfin de retour à Rome, savoure la liesse populaire qui l'attend en Italie.
Alors César est un vainqueur ?
L'historien Bernard Legras.
C'est un général vainqueur qui vient de mettre la main sur l'Égypte au nom du peuple romain, car ce n'est pas une conquête personnelle, bien entendu. César travaille pour le populus romanus, pour le peuple romain. Et évidemment, cette nouvelle victoire augmente considérablement son prestige. Et cela, il veut le montrer aux Romains. Et la tradition romaine, c'est celle du triomphe.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que ce triomphe romain, Bernard Legras ?
Alors, c'est un triomphe qui doit se matérialiser aux yeux des spectateurs que sont les Romains. La population romaine est présente dans la ville. C'est un spectacle extraordinaire, bien entendu.
C'est un grand défilé.
C'est un très grand défilé avec des couleurs, avec de la musique, avec du vin. Donc la population accourt. Alors, à la fois pour voir le vainqueur, pour voir les armées romaines, mais également pour voir les vaincus.
Aussi voir le butin, c'est-à-dire qu'on expose aussi le butin des victoires à la population romaine.
Alors, dans la guerre romaine, mais pas uniquement dans la guerre romaine, il y a évidemment le prestige des territoires conquis ou des territoires soumis, mais également tous les objets, toutes ces richesses qui sont prises aux vaincus. Donc on montre au peuple romain, en fait, un niveau de vie qui va augmenter.
Le Sénat confère à César les rangs, privilèges et titres de dictateur de Rome à vie.
Voilà César, nommé dictateur à vie. Mais qu'est-ce que ça signifie, dictateur à Rome ?
Dans la tradition romaine, le dictateur était un magistrat exceptionnel.
Yann Le Boeck, historien.
Quand il y avait une crise très grave, par exemple, quand Hannibal est arrivé en Italie, qu'il a détruit une grande armée romaine à la bataille de Cannes, le Sénat romain a estimé qu'il fallait prendre des mesures d'urgence et il a nommé un dictateur. Le dictateur était donc un personnage qui était admiré, respecté, en qui tout le monde avait confiance et à qui on confiait tous les pouvoirs, mais seulement pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, où il avait réussi, où il avait échoué, mais il était obligé de céder ses pouvoirs, de renoncer à ses pouvoirs.
Que signifie alors être dictateur à vie ?
C'est se voir conférer à vie le respect et l'honneur du peuple de Rome.
Et qu'en est-il au juste des ordres du dictateur ?
Toute proposition doit d'abord être approuvée par le Sénat de Rome.
Il ne peut pas être un dictateur au sens où on l'entend au XXIe siècle. Il utilise les magistratures romaines, ce qui existe à Rome, en essayant de pervertir ces institutions pour conforter son pouvoir personnel.
Quand César rentre à Rome, quelle ambition l'anime ?
Alors la grande question, ce sont les objectifs politiques de César. Bon, César est un homme qui a développé une forme de pouvoir monarchique, qui est tout à fait dans la contradiction, évidemment, de la République romaine, car il y a des institutions, on a un Sénat romain, on a des magistrats romains, et César n'est qu'un magistrat parmi d'autres. Parce que la grande question, finalement, c'est l'alternative qui existe à cette époque-là au pouvoir oligarchique des Romains, c'est la royauté hellénistique.
Alors, prenons le temps d'expliquer les choses. À Rome, à l'époque de Cléopâtre, le régime politique est une république où le pouvoir s'exerce à plusieurs. Il n'y a pas de roi. Il y a des sénateurs qui élisent parmi eux chaque année des magistrats qui se voient attribuer des responsabilités. Or, César rêve d'un pouvoir personnel, d'une monarchie, à l'image de son antique modèle.
C'est ce qu'a mis en place Alexandre, et c'est ce qui a fonctionné en Égypte. Et donc, il y a une séduction de ce mode de pouvoir, qui est un mode de pouvoir personnel, donc totalement justifié par les philosophes politiques grecs, et César, qui parle le grec, qui est totalement hellénisé, toute cette aristocratie romaine est bilingue, elle est vraiment gréco-romaine, a pu évidemment être fasciné, séduit par ce pouvoir monarchique à la grecque. Et n'a-t-il pas envie de mettre en place ce pouvoir en utilisant justement les guerres civiles qui renforcent le pouvoir des chefs d'armée ?
Mais on sait que c'est pour le bien de Rome que César est resté si longtemps en Égypte. En son absence, le peuple s'est mis à l'adorer comme un dieu. Pourquoi reviendrait-il pour se montrer aussi mortel que les autres ? Il y a ceux qui craignent l'ambition de César. Mais qu'y a-t-il à craindre ? Qu'il va un jour détruire la République ? Oui, il le fera. Je vous promets qu'il le fera.
Ta langue est vieille mais affilée, Cicéron. Fais attention quand tu t'en sers. Un jour, elle te coupera la tête.
Nous sommes en 46 avant notre ère. Et c'est là que Cléopâtre débarque à Rome. Elle vient rendre visite à son amant, César, qui, lui, est marié. Rappelons que Cléopâtre est reine, c'est primordial dans la tête de César. Et le dictateur installe sa maîtresse dans une somptueuse villa des jardins du Trastevere.
J'habite présentement une fort jolie maison. Les Romains nomment cela un palais, mais ce n'est qu'une maison, sur les jardins transtibériens.
Cléopâtre va mener une vie libre en faisant véritablement salon, en recevant en particulier des artistes, des musiciens, des philosophes, donc en participant évidemment à la vie de César, mais en ayant une vie autonome, libre, elle continue à se cultiver, donc elle mène une vie de reine, elle est reine d'Égypte.
Cléopâtre, qui aspire à réaliser le rêve d'Alexandre le Grand, encourage César à suivre ses pas.
Prends son rêve à ton compte, César. Le grand dessein qu'il s'était tracé. Reprends-le là même où il l'avait laissé. Fais de tout ce mélange disparate de conquêtes un seul monde, et de cet unique monde une seule nation. Un seul peuple sur la terre, vivant en paix.
Voici que tu me dis enfin, Cléopâtre, ce que tu veux de moi.
De nous.
Et le centre, la capitale de cet unique monde, de ce peuple, de cette nation. Alexandrie.
Il l'avait choisi.
Je suis romain.
Il était grec. Quelle importance, puisque nous ne serons tous qu'un seul peuple.
J'ai 52 ans. Lui a 32 ans à échouer.
Nous réussirons. Ce sont tes rêves, ce sont tes ambitions.
Une seule vie n'est pas suffisante pour de tels rêves, de telles ambitions.
On pourrait penser qu'elle a été quelque part son conseiller politique. En tout cas, elle lui offre un type de pouvoir qui a fonctionné pendant 3 siècles. Depuis Ptolémée Ier, c'est 300 ans de pouvoir stable et de pouvoir personnel. Et ça a pu lui plaire, d'autant plus qu'évidemment, cela implique dans la vie quotidienne un certain faste, un certain luxe qui a pu l'intéresser.
César est tenté par l'horizon d'une monarchie. Il se voit en roi de Rome et en s'affichant comme l'amant d'une reine, il infuse l'idée aux Romains qu'il a lui aussi l'étoffe d'un roi. Et César va aller encore plus loin.
Je viens de faire placer Cléopâtre, ton buste, dans le temple de Vénus. Et je suis assuré qu'au sein de l'Olympe, Vénus a pris cela comme un hommage.
Dans un nouveau temple dédié à Vénus, divinité dont il se réclame, César a fait installer une statue de la déesse romaine qui ressemble beaucoup à Cléopâtre.
Effectivement, on voit cette statue d'une Vénus génitrix, hein, donc qui donne la naissance, et cette statue, elle pose problème parce qu'elle est installée à la grecque, dans un temple romain.
Dis-moi, Brutus, est-il permis de rester debout devant cette nouvelle déesse que César a installée dans le temple, ou nous, Romains, devrons-nous nous prosterner ?
Pas encore. Tu vois, il a laissé une place pour une autre divinité. Quand le dieu César sera à côté de la déesse Cléopâtre, alors Rome devra ramper devant ce couple.
Donc, les Romains se demandent si on n'est pas en train de s'acheminer vers une déification, vers le fait de considérer à la fois Cléopâtre et donc César par adjonction, hein, comme de nature divine.
Ça veut dire aussi que cette statue grecque peut être aussi perçue comme un hommage rendu à sa fascination pour Cléopâtre.
Absolument, absolument. Donc on passe de l'ordre du politique à un ordre divin, alors qui est totalement inacceptable pour les Romains, mais qui est parfaitement acceptable dans une perspective hellénistique, parce que dans la perspective des Ptolémées, le roi et la reine sont des dieux vivants, ce sont des hommes-dieux, ce sont des femmes-dieux. Donc Cléopâtre est considérée par sa population, grecque ou égyptienne, comme une déesse vivante. Et quand on dit déesse, ce n'est pas une vue de l'esprit. Elle a des temples, elle a des statues, elle a des cultes, elle a des prêtres. Donc on lui en rend un culte exactement comme aux autres dieux. Donc avec cette fameuse statue de Vénus, les Romains peuvent penser qu'on est en train justement de passer à un état hellénistique où le souverain n'est plus seulement un être humain, mais à une nature divine.
On pourrait presque croire que Cléopâtre s'est mise en tête de captiver les citoyens de Rome.
Tout incite à croire que c'est exactement ce qu'elle voudrait.
Et donc, du coup, on place la cité romaine sous influence étrangère aussi. Et d'un point de vue politique, tout d'un coup, on se dit, attention, cette femme est en train de prendre le pouvoir et sur l'esprit de César, mais aussi sur la cité.
Rome pourrait devenir un état hellénistique.
Avec quelles conséquences pour Cléopâtre ?
La conséquence pour Cléopâtre, elle est magnifique. Hein, elle sera la reine du roi, donc l'épouse du roi, dans un royaume romano-hellénistique qui contrôle la totalité de la Méditerranée. C'est un rêve fou.
Est-ce qu'on sait comment réagissent les Romains à l'égard de Cléopâtre, justement ? Est-ce que ça change quelque chose pour l'image de Cléopâtre dans la perception qu'ont d'elle les Romains ?
Les Romains détestent Cléopâtre. Alors évidemment, nous n'avons pas... Il n'y a pas de sondage, on n'a pas de témoignage, mais on a Cicéron, Cicéron qui nous dit « je déteste la reine ».
Donc les Romains détestent cette reine égyptienne.
Je crois que le jugement de Cicéron peut l'étendre à toute la société romaine.
Regarde un peu qui va passer.
La litière est bien belle. Cléopâtre ?
Cléopâtre, comme tu dis. Le serpent du Nil.
Elle m'est indifférente, mais... Pourquoi la nommes-tu ainsi ?
Parce que c'est elle qui nous a changé César.
À votre avis, Maurice Sartre, au moment de ce séjour à Rome entre 46 et 44, comment est-ce que la société romaine perçoit Cléopâtre ? Est-ce qu'elle est égyptienne, c'est-à-dire étrangère, une reine étrangère qui est à Rome, une reine grecque d'ailleurs qui est à Rome ?
Non, je crois que pour eux c'est une reine grecque, c'est une femme qui a pouvoir de grande culture. Une des rares allusions de Cicéron, c'est de dire qu'il lui en veut beaucoup parce qu'elle lui avait promis des livres et elle n'a pas tenu promesse. Bon, peut-être qu'elle est partie un peu vite, c'est possible, mais je ne crois pas du tout que les Romains l'aient jamais considérée comme égyptienne. Après, oui. Plus tard, parce que ça, c'est la propagande. Parce qu'il faut quand même voir que pour les Romains, bien sûr, il y a du racisme à l'égard des barbares. Du racisme, le mot est trop moderne, puisque ça n'existe pas dans l'Antiquité, mais quand même, il y a des évaluations de peuples, il y a des hiérarchies de peuples. Or, de tous les barbares, les Égyptiens sont les plus barbares. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui adorent des dieux qui sont mi-animaux, mi-hommes. Et ça, c'est pour les Romains, c'est une chose qui est insupportable. Sans parler des mutilations sexuelles ou des choses comme ça. Mais tout le monde sait bien que Cléopâtre est grecque, qu'elle est à la tête de la bibliothèque d'Alexandrie, du musée. C'est une femme de grande culture, tout le monde le sait.
À Rome, César tente donc de pervertir les institutions de la République pour accroître son pouvoir. Mais il doit faire face à des résistances.
César doit-il quémander au lieu d'ordonner ? César doit-il se présenter devant le Sénat tel un enfant à l'école qui a tantôt de bonnes notes, tantôt de mauvaises ?
Suggérerais-tu que le Sénat ne délibère plus sur l'intérêt public de Rome ? Suggérerais-tu qu'on en finisse avec la loi romaine ?
C'est moi qui suis la loi. Et ma parole doit être en l'intérêt public de Rome. Sinon, enlevez-moi ce titre vain et illusoire de dictateur.
Excédé et inquiet devant cette dérive autoritaire et monarchique, certains sénateurs romains fomentent un complot. Le 15 mars 44 avant notre ère, la Curie attend César.
Lorsque César entra, les sénateurs se levèrent pour lui faire honneur. Alors, Tullius lui prit la toge de ses deux mains et lui découvrit le haut des épaules, ce qui était le signal de l'attaque. Casca, le premier, le frappe de son épée près du cou. Mais la blessure ne fut pas mortelle, le fer n'ayant pas pénétré bien avant. Au premier moment, tous ceux qui n'étaient pas dans le secret du complot furent saisis d'horreur.
Lâchez-moi !
Et frissonnant de tout leur corps, ils n'osèrent ni prendre la fuite, ni défendre César, ni même proférer une parole. Cependant, les conjurés, tirant chacun leur épée, environnent César de tous côtés. De quelque part qu'il se tourne, il ne trouve que des épées qui le frappent aux yeux et au visage. Tel qu'une bête féroce assaillie par les chasseurs, il se débattait entre toutes ses mains armées contre lui. Car chacun voulait avoir sa part au meurtre et goûter à ce sang, comme aux libations d'un sacrifice. Et Brutus, lui-même, lui porta un coup dans l'aine.
Toi aussi, Brutus. Alors, ton César.
Quand César fut achevé, Brutus s'avança au milieu du Sénat pour rendre raison de ce qui venait de s'accomplir.
Voilà le sort des tyrans.
Mais les sénateurs n'eurent pas la force de l'entendre. Ils s'enfuirent précipitamment par les portes et jetèrent parmi le peuple le trouble et l'effroi.
Cléopâtre, sois forte.
Qu'y a-t-il, Apollodore ?
César est mort. On l'a assassiné en plein Sénat. Brutus lui-même l'a frappé.
César. César est mort.
Demain, à la quatrième heure, un office des morts sera organisé pour Caius, Julius, César.
À quoi ressemblent les funérailles de César, Yann Le Boeck ?
Alors, ce sont les funérailles traditionnelles d'un sénateur romain de haut rang. Son corps est exposé, il est nettoyé, posé sur un brancard et exposé de façon à ce que les Romains qui veulent le voir puissent le contempler une dernière fois. Ensuite, le corps est incinéré, comme c'est la tradition à Rome. Les cendres sont mises dans une urne et l'urne est mise en terre dans un monument.
En Égypte, on bâtit des monuments éternels aux héros défunts. Ici, on les brûle comme des déchets.
Comment a pu réagir Cléopâtre à ce moment-là ?
Le monde s'est effondré. Tout ce qu'elle avait construit à Alexandrie et à Rome, d'un coup, s'efface. Plus qu'une solution, c'est rentrer à Alexandrie le plus vite possible. Elle craignait pour sa propre vie.
à Alexandrie, qui règne à ce moment-là? Elle, bien sûr, mais il y a une autorité sur place, on imagine.
Alors, elle avait un représentant, et là, on voit le génie de Cléopâtre, tout en étant à Rome et en s'adonnant au plaisir de la vie romaine. Hein, elle dirigeait le pays de loin. Donc, elle envoyait des lettres, évidemment écrites sur papyrus, en continuant à faire des ordonnances, donc de prendre des décisions de nature politique pour diriger le pays. Donc, elle avait un représentant sur place qui exécutait ses ordres. Elle ne s'est pas retirée du tout de la vie politique. Elle a continué à être reine, mais reine à distance.
César est assassiné en 44 au Sénat. Cléopâtre perd son protecteur. Comment réagit-elle, Maurice Sartre ?
Alors, elle quitte Rome peu de temps après. Mais pour elle, évidemment, elle perd son protecteur. Je dirais, elle perd la raison d'être à Rome. Elle n'a pas de raison spécialement d'être à Rome. De toute façon, elle connaît probablement déjà bien ceux qui vont prendre la défense de la mémoire de César. C'est-à-dire essentiellement Antoine, qui est le leader dans cette affaire. Et en plus, c'est lui qui est consul à Rome cette année-là. L'homme d'avenir, c'est lui. Elle le connaît, mais comment ça va tourner? Je crois que si elle part, c'est aussi parce qu'elle ne veut pas que son royaume soit engagé dans la guerre civile qui s'annonce. Car d'un côté, il va y avoir les assassins de César qui se prétendent libérateurs, républicains. Et puis de l'autre, eh bien, il y a les Césariens qui vont essayer de venger César. Elle n'a aucun intérêt à être mêlée à cette guerre civile. Aucun.
Donc là encore un grand sens politique.
À mon avis, elle a un grand sens politique.
En tout cas, tout est fini. César et les rêves qui ont péri avec lui. Ceux d'Alexandre. Ceux de César. Ils sont évanouis, finis.
Tout est fini. Ou presque. Car il y a une chose importante que je me suis abstenu de vous raconter. César et Cléopâtre ont donné naissance à un fils, Césarion.
Ça, c'est important parce que César, dont la tradition dit qu'il a eu un nombre d'aventures féminines et masculines d'ailleurs aussi, mais avec masculine, il n'y avait pas d'enfants. Avec les femmes, il pouvait avoir des enfants. A eu très peu d'enfants. Il a eu une fille. Il n'a qu'un seul garçon, et c'est avec Cléopâtre. Alors évidemment, enfant illégitime, donc sans droit à succession, à héritage, quoi que ce soit. Mais pour le futur, ça risque de poser peut-être un peu problème, on ne sait jamais.
Après la mort de César, Marc-Antoine, son fidèle lieutenant, voit en Césarion un héritier légitime.
Césarion, en tant que fils de César, peut demander le titre de roi et la déification.
Et de quel tribunal pourrons-nous exiger cela, mon fils et moi ?
Je présenterai cette motion au Sénat romain en personne.
Et après que les nobles sénateurs auront fini de rire, il ne restera plus à mon fils et à moi qu'à déclarer la guerre à Rome. Non. Pour cela, c'est un César qu'il nous faudrait.
Alors justement, ce fils Césarion, comment est-ce qu'elle envisage son destin, Cléopâtre, la mère de l'enfant ?
Oh ben, je pense que pour elle, de toute façon, c'est son fils à elle, légitime pour elle, de toute façon. Il n'y a pas de problème, parce qu'elle ne risque pas d'avoir des enfants avec ses petits frères. Donc, il faut que le géniteur soit extérieur à la famille. Là, on ne voit pas bien comment ça pourrait être autrement. Et de fait, dès qu'elle a réussi à se débarrasser, après l'assassinat de César, de Ptolémée XIV, elle proclame son fils, qui s'appelle Ptolémée. On dit Césarion, mais il ne faut pas oublier qu'il s'appelle Ptolémée. Et ça, c'est un signe. C'est que pour elle, il s'inscrit bien légitimement dans la famille. Après tout, elle aussi était illégitime, il ne faut pas l'oublier.
Oui, Cléopâtre était illégitime, car c'est une enfant née d'une union non officielle. Je vous rappelle qu'on ne connaît pas sa mère. On sait simplement que ce n'était pas l'épouse du père de Cléopâtre. Pourtant, Cléopâtre a été associée au pouvoir. Donc, pour son fils, c'est la même chose.
Elle peut parfaitement désigner un fils illégitime aussi pour lui succéder. De toute façon, elle a à ce moment-là que ce fils-là. C'est l'enfant de la succession, c'est l'enfant qui gardera le royaume après elle. Pour elle, c'est, à mon avis, une évidence.
La reine Cléopâtre a quitté Rome avec son petit César. Ce n'est pas moi qui la regretterai. Je ne puis la souffrir.
Après 4 années passées dans l'intimité de César, quelle leçon a pu en tirer Cléopâtre ?
À mon avis, ce qu'elle a pu apprendre de César, d'une part, c'est la persévérance, parce que César était quelqu'un de persévérant, et surtout quelqu'un qui savait à la fois ce qu'était la puissance de Rome, et puis, je crois surtout, le fait qu'elle a vu comment fonctionnait la puissance romaine. Elle a vu ce que représentait Rome, elle a appris sûrement à connaître la classe politique romaine. Finalement, elle connaît les hommes qui vont, tous ceux à qui elle va avoir affaire, elle les a nécessairement rencontrés à Rome, parce qu'elle n'a pas vécu en recluse, hein. Il n'y a pas de raison. Donc, elle connaît aussi bien des gens dans les deux camps.
Elle les a rencontrés, elle les a observés aussi. C'est là où elle est sans doute très fine, c'est qu'elle a eu le temps de voir qui était qui dans leur psychologie, peut-être aussi d'ailleurs.
Il est très probable qu'elle sait très bien comment fonctionne un homme politique romain. Elle, évidemment, elle est d'un autre monde. Le monde des rois, on n'a pas à se soucier, on n'a pas de compte à rendre. Elle sait que les magistrats romains, eh ben, ça dure un an, et que y a un combat politique, un débat, qu'il y a des oppositions. Et donc, je suis à peu près persuadé qu'elle a acquis une bonne connaissance de la vie politique romaine. Elle avait commencé quand elle avait 15 ans, qu'elle est venue avec son père en 58. Et puis, et bien là, elle a continué. Donc, c'est une femme qui s'est formée sur le terrain, en quelque sorte. Et si elle rentre en Égypte, c'est pour, à mon avis, ne pas être mêlée et d'attendre de voir ce qui va se passer.
Toute la Méditerranée était soumise à Rome. Seule l'Égypte était encore libre. Et pourquoi l'était-elle ? Parce que Cléopâtre avait su user de l'amour qui l'unissait à César.
César et Cléopâtre, ce fut une relation politico-amoureuse hors norme. Et la question se repose inlassablement. Cléopâtre avait 21 ans. Qu'a-t-elle appris auprès de son vieil amant ?
Ah, qu'a-t-elle appris ? Elle ne nous l'a pas dit, hein, car n'oublions jamais que Cléopâtre ne nous a rien dit, n'a rien écrit. Donc on peut imaginer, elle a observé la vie politique romaine, ils ont dû beaucoup parler évidemment, hein, donc elle devait connaître ses projets, et puis elle a vu un empire se mettre en place, parce que finalement c'est le début de la domination totale des Romains sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Et donc, elle a dû avoir des échanges avec tous les Romains cultivés, avec les sénateurs, avec les magistrats, tout en ayant un soutien intellectuel avec ses philosophes, ses mathématiciens, ses musiciens qu'elle fréquentait quotidiennement. Donc, elle a continué à se cultiver. Elle a vu la politique romaine se faire, la cristallisation du pouvoir de César, tout en continuant à diriger son royaume. Pendant toute cette période à Rome, il n'y a pas eu de complot à Alexandrie, il n'y a pas eu de révolte. Le pays a été tenu.
En conclusion de ce deuxième épisode, il est probable que Cléopâtre ait eu conscience qu'après la mort de César, la guerre civile romaine allait reprendre. Alors, toujours dans la perspective de protéger son pouvoir et sa dynastie, il fallait vite rentrer à Alexandrie.
En tout cas, votre Cléopâtre a filé. Voilà la stricte vérité.
Mais elle n'était pas reine de Rome. Elle était reine d'Égypte. Elle ne s'était établie à Rome que pour l'amour de César. Et César n'était plus. Qu'avait-elle encore à faire en Italie ? Elle repartit pour l'Égypte.
Cléopâtre, une femme au pouvoir. C'est l'horizon du prochain épisode. Cléopâtre. Le génie politique, un récit de Philippe Collin, réalisé par Flora Bernard. Lecture, Véronique Vella, de la Comédie Française. Assistance éditoriale, Irène Menahem. Documentation sonore, Frédéric Martin. Mixage, Basile Bocquer. Prochain épisode, Une reine en son royaume. Cléopâtre, Le génie politique est un podcast original de France Inter.